Votre connexion internet est trop lente? Radio-Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net à votre service.
Quelles sont les normes à respecter avant de construire une maison? On en parle avec Dishongan, d'où il est architecte en RDC. Les maisons sont parfois construites sur des terrains qui sont marécageux, sablonnés également sur une colline. Et dans bien des cas, ces habitations sont érigées sans le moindre respect des normes pour être à l'abri de tout danger, ce qui peut constituer évidemment un danger. Lorsque les normes requises pour construire une maison ne sont pas respectées, quelles sont ces normes? On en parle avec Dishongan, d'où qui est architecte. Rebonjour, Dishongandou.
Rebonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, la première question qui nous vient à l'esprit, est-ce qu'il y a vraiment des normes très très importantes à respecter avant de s'élancer dans la construction d'une maison?
Bien sûr, c'est une évidence parce que construire est une activité qui repose sur certains principes, sur certaines réglementations, à telle enseigne que on ne peut pas dire que lorsqu'on se lance dans la construction, c'est à volo. Alors, je voudrais situer cette intervention, ou plutôt la focaliser sur des aspects, en amont et en aval.
Oui.
Ce que j'ai dit en amont, c'est-à-dire que je vois l'architecture à grande échelle, c'est-à-dire l'urbanisme. C'est une science qui a pour objectif l'aménagement et l'organisation des villes et de leurs environs. C'est-à-dire, en termes moins savants, construire à grande échelle. Et maintenant, en aval, lorsque on commence maintenant à construire individuellement, chacun construit une maison, qui une école, qui un hôpital, un centre de santé. Là, nous entrons en détail. Alors, lorsque on revient sur l'architecture à grande échelle, c'est-à-dire il y a une planification urbaine qui est au départ établie, et cette planification produit des documents. Donc, il y a des fondamentaux sur base desquels on se base pour pouvoir faire la planification de la ville. Il y a les premiers documents qu'on appelle les plans d'occupation des sols. Et tout ça, c'est l'État qui produit ça. Les plans d'occupation des sols déterminent avec précision l'affectation des sols et les règles de leur utilisation. Je prends à titre d'exemple, il y a un quartier qu'on va lotir. Lorsqu'on lotit un quartier, on considère que c'est un îlot dans une grande agglomération qui est Kinshasa. Kinshasa a un schéma directeur, c'est-à-dire une prévision pour l'extension de la ville. Vous voyez aujourd'hui, on est en train de créer des cités, on dit Miteni, ceci, cela, tout ça. Tout cela font partie ou c'est déjà prédestiné par le schéma directeur. Et maintenant, lorsqu'on va dans un quartier déterminé pour pouvoir maintenant faire le lotissement et construire, là, on produit ce qu'on appelle les plans d'occupation des sols. Et là, il y a des précisions. Les précisions, là, c'est pour dire, par exemple, que non, voilà, il n'y aura pas de maisons qui vont dépasser 5 niveaux ici. Il n'y aura pas, par exemple, un grand marché ou plutôt un marché de telle dimension. Il y aura ceci, il y aura cela, et on donne avec des précisions. Donc, vous avez en quelque sorte un plan des masses, des volumes qui est déjà établi pour ces quartiers-là. Alors, l'autorité qui délivre les permis de construire, ou plutôt l'autorisation de bâtir en d'autres termes, se réfère aux réglementations qui sont déjà déterminées par les plans d'occupation des sols. Donc, lorsque vous avez acheté une maison, ou plutôt vous avez un projet de construire une école dans cet îlot-là, dans ces quartiers-là, et que vous allez auprès de l'État pour pouvoir obtenir l'autorisation de bâtir, on vous dit « Ok, ici, on a dit que les maisons ne doivent pas dépasser 50% par exemple de votre surface. Vous devez laisser autant de pourcentages pour tel aménagement. Vous devez laisser autant de pourcentages de surface pour tel équipement. Alors, lorsque vous respectez les normes, vous construisez, c'est ça l'idéal. Et malheureusement, nous sommes en train de vivre des situations un peu désagréables parce qu'il y a très peu de gens qui respectent l'idéal, qui respectent les normes établies. Et il y a aussi des zones où on ne doit pas construire pour une simple raison que non, voilà, ici, c'est par exemple un endroit qui est destiné à accueillir plus tard un aéroport. Alors, oui, on ne peut pas avoir des habitations tout autour. Ici, c'est un chemin de fer qui va passer par ici.
Exactement.
On ne peut pas construire des habitations parce que plus tard, lorsque le chemin de fer va être en activité, il y aura incompatibilité avec les activités d'une vie quotidienne.
Alors, dites-nous, Dichot, à ce niveau, est-ce à comprendre que c'est l'État qui ne joue pas vraiment son rôle, parce que bien souvent, il y a des gens qui commencent à construire et après on leur dira non, il ne fallait pas construire dans les secteurs. C'est-à-dire que déjà au départ, au niveau de l'urbanisme et habitat, les gens ne s'étaient pas bien renseignés, ou bien les gens le savaient, mais ils ont fait à fi de tout cela.
Non, je ne peux pas d'emblée dire que c'est l'État qui ne joue pas complètement son rôle. Les responsabilités sont partagées.
Oui.
Il y a un principe de droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et lorsqu'on s'engage dans une construction, il y a des professionnels de la construction. C'est-à-dire qu'on est censé avoir consulté soit un architecte, soit un ingénieur, en fait, n'importe quel auxiliaire du bâtiment qui est censé vous orienter, vous dire le préalable. Il dit, non, OK, vous voulez construire, d'accord, mais commençons par obtenir le permis de conduire. Commençons par voir les titres de propriété que vous avez. Si ces titres-là sont légaux, sont établis pour que vous puissiez vivre à cet endroit-là, tout à fait d'accord, en ce moment-là, vous pouvez faire les pas. Mais la plupart des gens s'engagent par aventure. Il se lance lui-même, il connaît tout, il fait l'autoconstruction, et ne sachant même pas que là où il est en train de construire, c'est un endroit qui était destiné, ou plutôt qui est destiné plus tard à recevoir un aéroport ou un hôpital général de référence. Il trouve que non, voilà, c'est une brousse abandonnée, ou bien c'est un espace qui semble être n'est pas intéressé l'État. Ok, avec la complicité, et là aussi que je dis que non, voilà, les responsabilités sont partagées, parce que la complicité vient toujours de certains agents de l'État qui délivrent des permis, malheureusement, et des certificats d'enregistrement. Et une fois qu'on est en possession de certificat-là, sans se demander si, effectivement, à cet endroit-là, il fallait construire ou pas, on se lance dans la construction.
Mais certaines personnes disent également que ce n'est pas facile de demander les services à des architectes que vous êtes. Vous demandez également cher. Voilà pourquoi ils préfèrent se débrouiller autrement.
Non, ça, ce n'est qu'une illusion. En fait, on dit que non, l'architecte coûte cher. Mais vous savez que tout ce qui est moins cher coûte à long terme plus cher. Vous refusez de demander des conseils à un architecte parce que vous dites que non, voilà, cette consultation va me coûter autant, je n'ai pas cet argent. Vous vous lancez dans la construction par vous-même, mais chemin faisant, vous êtes en train de dépenser, à titre d'exemple, des sommes au bout de 4-5 ans qui avoisinent 50 000 $.
Voilà.
Mais le jour où le Caterpillar passera, les 50 000 $ vont s'effondrer tel un château de cartes en un jour. Mais si au départ vous aviez accepté de demander conseil à un architecte et qu'il vous aurait orienté de la manière la plus pertinente possible, ça vous aurait épargné tous ces désastres-là qui, à la longue, amènent même à des morts subites.
Voilà, Dichot, on va poursuivre avec vous le temps d'accueillir des auditeurs qui sont déjà en ligne. Nous avons Esther Oubedi qui nous appelle de Mayagi en province orientale, Omar Kigalo et à Kinshasa. Vous voulez également intervenir par rapport à ce sujet. Quelles sont les normes à respecter avant de construire une maison? Vous pouvez nous appeler au 081-890-6394 ou vous pouvez également nous faire un SMS au 081-711-5001.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Esther Obedi, vous êtes à Mayagi dans la province orientale. Bonjour Esther.
Voilà, bonjour à tous. Merci pour les sujets. Je pense parmi les normes à respecter pour capable de construire une maison. C'est nécessaire aussi, je pense qu'on puisse tenir aussi compte de la route, c'est-à-dire la maison ne doit pas vraiment se rapprocher directement de la route. Mais il s'avère qu'un milieu actuel comme ici à Mayagi n'est pas celui dans les temps. Du fait qu'il y a évolution, surtout point de vie, c'est-à-dire la population a augmenté, la circulation, les commerces, et surtout la RN4, la route nationale numéro 4, prend son ouverture ici à la frontière avec l'Ouganda. Alors, il s'est avéré utile l'arrière et de tracer des routes là où ça n'existait pas auparavant. Et voilà, actuellement, la population en est tombée victime. Alors, un autre invité, lorsqu'on démolit des maisons, par exemple, déjà en construction, pour élargir la route ou pour tracer des routes là où ça n'existait pas avant, que prévoit la loi à cette matière pour des victimes de cette situation? Donc, sinon, ce que je vis ici à Mahi, lors de la réhabilitation des RN4, on a démoli. Donc, quand on démolit ta maison, ta bouche, tu la tiens fermée et tu n'as rien à dire. Alors, quel est le sort de ces victimes-là? Deuxième question.
Oui.
Est-ce que notre invité peut me définir donc une parcelle? Une parcelle, c'est quoi? Est-ce que si je peux avoir une surface de 2 mètres carrés, 5 mètres carrés, c'est là aussi que ça s'appelait une parcelle? Et la troisième et toute dernière question,
oui.
Est-ce qu'il peut me donner la dimension acceptable d'une parcelle répondant aux normes d'une habitation, c'est-à-dire là où on peut avoir une maison, des toilettes, des trous d'ordures, donc une dimension minimum quoi pour une parcelle. Merci.
Merci Esther Oubedi, vous appelez de Mayagi en province orientale. Omar Kigalo, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour Omar.
Bonjour Marcel Ngombo et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci beaucoup Marcel. Avant de poser ma question, je voudrais apporter ma petite dose juridique pour dire que le domaine foncier est régi par la loi du 20 juillet 73 portant code de biens. Et cette loi vise ou prévoit la procédure à suivre pour construire. Malheureusement, nous remarquons sur le terrain, il y a toujours des constructions anarchiques. À mon avis, c'est l'ignorance de la loi. On l'a démontré avec notre ami qui vient déposer la question. La loi, oui, nul n'est censé l'ignorer, mais elle doit être vulgarisée pour la connaître. Des deux, il y a une certaine immoralité de certains conservateurs. Monsieur Marcel, c'est l'État qui octroie des terrains. L'article 53 dit « l'État est le propriétaire exclusif du sol ». Et la loi prévoit que avant de construire, il faut que les ingénieurs descendent les topographes pour voir. Si aujourd'hui on a des constructions anarchiques, la faute revient d'abord à l'État, parce que c'est lui qui est le propriétaire du sol. Et enfin, il y a l'indifférence de la population. Allez vers Kinkole, ce sont les chefs coutumiers qui vendent des terrains. La loi dit que c'est seul l'État qui est le propriétaire. Mais en vertu de quelle autorité les chefs coutumiers vendent? Et ce sont eux qui vendent n'importe quel terrain, on ne le punit pas, il y a des constructions anarchiques. Alors, je pose ma première question. Quelle est la différence entre un topographe et un architecte? Deuxième question. Quelles sont les caractéristiques des bons terrains sur le plan urbanistique? C'est-à-dire, comment on peut reconnaître que ce terrain est bien construisable? Et dernière question. Quels sont les dangers de construire lorsqu'on n'a pas consulté un architecte ou un topographe? Parce que je suis dans un quartier où les maisons pullulent comme des champignons, le même maçon est au même moment architecte. Mais ce qui m'étonne, c'est que ces maisons aussi prennent beaucoup de temps et existent toujours. Alors, quels sont les dangers qu'on court lorsqu'on n'a pas consulté un architecte avant de construire? Voilà ma question et je vous souhaite un bon début de week-end, Marcel.
Merci Omar Kigalo. Bon début de week-end à vous également. Vous nous appelez de Kinshasa. On va se rendre en prison dans la province du Bandundu, dans la ville de Kikwit, pour accorder la parole à Ogi Bendelo. Bonjour Ogi Bendelo.
Bonjour Marcel Ngombombale. Je salue aussi M. Omar Kigalo et je lui donne un cachet qui m'écoute. Bon début de week-end à tous les auditeurs de la radio Capitaine suivant ce moment.
On vous écoute, Ogi Bendelo.
Merci Marcel de m'avoir accordé la parole. Concernant les normes à respecter pour construire, je pose la question à M. Dishongandu pour savoir, les cimetières, c'est un lieu où la terre n'est pas tout à fait solide, c'est parce que cette terre-là n'est pas naturelle. Alors, un cimetière où on a cessé d'enterrer les gens à l'écart de 20 ou 30 ans, et maintenant on voit les gens construire en désordre. C'est pourquoi je voulais poser la question à notre invité. Est-ce que les gens qui construisent au lieu du cimetière, donc un cimetière qui a passé 20, 25 ou 30 ans, est-ce qu'ils ont respecté les normes? Et si vraiment il faut construire, quelles sont les normes à respecter au lieu du cimetière? C'était là ma seule question, monsieur Marcel Ngombombala.
Merci Ogi Bendelo depuis Kikwit, dans la province du Bandundu. Dishongandu va revenir à vous. Vous avez suivi toutes les interventions de nos auditeurs qui nous ont appelés de Mayagi, de Kinshasa et également de Kikwit. Il y a d'abord Esther de Mayagi qui est revenue sur le plan, la planification d'occupation des sols, notamment pour des personnes qui construisent non loin d'une route nationale. Et il a également cherché à savoir comment on définit une parcelle et quelles sont les dimensions qu'une parcelle doit avoir pour qu'on puisse parler que voici, c'est une parcelle. Est-ce que lorsqu'on a un espace de 2 mètres carrés, 5 mètres carrés, on peut parler d'une parcelle?
Ok, merci beaucoup pour toutes ces préoccupations. Je voudrais commencer par la plus courte, c'est-à-dire l'intervenant avec Equit qui a demandé...
Construit dans un cimetière désaffecté, oui.
Si 30 ans après, on peut construire tout autour des cimetières ou dans les cimetières. Les cimetières ne sont pas appelés à rester éternellement cimetières, à moins qu'on en fasse des musées plus tard. Mais pour besoin, par exemple, d'expansion urbanistique, s'il faut arriver à désinfecter un cimetière, la loi prévoit qu'il faut le faire 50 ans après l'enterrement de la dernière personne. Donc j'ai dit bien 50 ans après l'enterrement de la dernière personne, on peut désinfecter un cimetière, c'est-à-dire on peut l'affecter à une construction habitable. Alors je reviens à l'intervenant de l'Est qui a posé trois questions. La première en rapport avec la route. En fait, la route, ça fait partie de la circulation et c'est un des piliers sur base desquels on établit ou plutôt on érige des villes. Donc, lorsqu'on parle d'une ville, on voit l'habité, on voit le travail, on voit les loisirs, on voit la circulation. Donc, la route, c'est un des paramètres très importants dans l'amélioration d'une ville. Alors, l'État, comme l'intervenant de tout à l'heure, a bien montré que l'État est propriétaire du sol et du sous-sol. Pour besoin des causes, si l'État veut élargir une route, il a le plein droit, mais il ne va pas s'employer de manière sauvage ni brutale. On doit dédommager les gens qui sont concernés par les principes, qui sont affectés par l'élargissement de la route. On fait des évaluations, des études préliminaires pour savoir que ces personnes ont dépensé combien pour pouvoir construire ces habitats et il faut restituer cet argent-là, non seulement restituer, mais au besoin de localiser leur construction, leur donner un autre quartier pour pouvoir, avec les moyens qu'ils ont obtenus de l'État, oui, ériger d'autres constructions. Mais malheureusement, l'État, soit ne le fait pas, mais dans la plupart, dans les rares cas où l'État le fait, vous savez que c'est un processus qui prend du temps entre l'établissement des études et le désintéressement en lui-même. Ça peut prendre 2-3 ans s'il y a une certaine lenteur. Mais vous savez, pendant ces temps, les gens ont déjà touché l'argent et ils ont affecté à autre chose. Et lorsque les caterpillars passent, on crie sur tous les toits. Non, voilà, il y a eu ceci, cela, tout ça. Oubliant que les gens avaient même déjà perçu de l'argent. Et le plus malin, après avoir obtenu de l'argent, revendre les parcelles à d'autres personnes qui viennent innocemment acheter, ne sachant pas qu'est-ce qu'il y a en dessous des cartes. En fait, il y a des choses qui sont bien établies. L'État, si je peux me résumer, a le droit d'ériger un passage là où il y a des constructions, mais à condition à ce que ces gens-là soient désintéressés de manière procédurale.
Pour la discussion, oui.
Madame a aussi cherché à savoir qu'est-ce qui peut être... Comment on peut définir une parcelle?
Oui.
En fait, lorsqu'on fait des îlots, c'est-à-dire des quartiers qui sont appelés à abriter des constructions, on détermine des dimensions. Et je crois que les dimensions les plus minimales, c'est 20 mètres sur 20, parce que les parcelles ne sont pas appelées à avoir les mêmes dimensions. On établit les quartiers, ou plutôt on détermine les dimensions des parcelles en tenant compte de classe sociale de la population. Vous savez, nous sommes dans la population, mais nous n'avons pas le même moyen. Il y a des pauvres, il y a ceux qui vivent une vie moyenne, il y a des riches. Ça, c'est un premier principe. Et puis, c'est selon le relief qu'on établit aussi qui peut habiter ici, qui peut habiter là-bas. Vous ne pouvez pas faire des îlots, des lotissements sur un terrain accidenté et établir des parcelles de 20x20. Donc, c'est pour des classes moyennes. Or, les classes moyennes n'ont pas beaucoup de moyens pour pouvoir établir des constructions sur des terrains accidentés. Ce sont des constructions qui demandent beaucoup de moyens.
Voilà.
Donc,
oui.
En amont, il y a les reliefs et en aval, il y a les rangs sociaux de la population qui déterminent, qui sont à la base de la détermination des dimensions parcellaires lorsqu'on fait un lotissement.
Voilà, il y a cette question également de Omar qui voulait savoir c'est quoi la différence entre un topographe et un architecte et puis comment reconnaître un terrain. Vous êtes déjà là, vous avez déjà effleuré une partie de la réponse. Et puis, quels sont les dangers auxquels on s'expose lorsqu'on construit sans consulter soit un topographe ou Un architecte, vous allez tout à l'heure répondre à ces trois questions d'Omar. Le temps pour nous de rappeler à ceux qui sont intéressés par ce sujet quelles sont les normes à respecter avant de construire une maison. Vous pouvez nous appeler au 081 890 63 94 ou nous faire un SMS au 081 711 50 01.
C'est parce que Radio Capé unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Nous avons Mike Bib qui nous appelle de Kolwezi dans le Katanga, Maveki Sambi Kaita Kananga dans le Kassai Occidental. Avant de leur accorder la parole, Desho, vous voulez bien répondre rapidement à Omar, c'est quoi la différence entre un topographe et un architecte?
Ok, j'étais en train déjà de parler. Disons que je voudrais en termes très simples dire que l'architecte, c'est considéré comme le chef d'orchestre, c'est-à-dire c'est autour de lui que gravitent les autres intervenants dans l'art de bâtir. C'est-à-dire que avec les clients, ils établissent les programmes. Et c'est lui maintenant qui dit que tel va intervenir à tel moment, tel va intervenir à tel moment. Le topographe vient épauler l'architecte dans la précision, dans les nivellements, pour que lorsqu'on est en train de construire, on ne puisse pas aussi avoir une maison éparse, une maison qui ne respecte pas ni des verticalités ni des horizontalités. Mais il intervient beaucoup plus aussi dans le tracé des routes, parce que c'est lui qui sait que non, une route qui doit commencer par Ipen, par exemple, jusqu'au niveau de l'aéroport, pour que cette route-là ne puisse pas constituer un danger, il faut aller avec à gauche, il faut détourner telle courbe des niveaux, il faut prendre telle pente, il ne faut pas dépasser la pente de tel pourcentage. Donc, bref, vous comprenez le rôle du topographe et vous comprenez aussi le rôle de l'architecte. Et donc, tous sont des auxiliaires de l'art de construire, parce qu'on ne construit pas seulement que les bâtiments, on construit la ville, on construit les routes. Donc, les trois interviennent, mais chacun à son niveau.
Et les dangers de construire, c'est quoi les grands dangers lorsqu'on ne sait pas consulter un topographe ou un architecte? Les grands dangers?
Les grands dangers, c'est-à-dire qu'on est en train de vous mettre en place un monstre qui un jour va se retourner contre vous. Dans quel sens? On peut vous construire une maison, je prends un exemple, de 2 mètres sur 2 comme chambre, donc une maison de 4 mètres carrés, et vous allez vous plaire à faire dormir vos 2 ou vos 3 enfants pendant 10 ans, et plus tard, ils vont attraper des pneumonies, des maladies respiratoires. Vous ne comprendrez jamais que c'était la conséquence due au fait que vous les avez logés dans une petite chambre pendant longtemps, ils ont respiré de l'air qui était pollué et les dégagements, l'aération n'étaient pas respectés. L'architecte est là, il vous donne les normes parce que l'architecture, c'est de la médecine préventive aussi. Oui. Lorsque vous vivez dans un environnement d'essence terrain, vous donnez aussi longue vie à vous-même et à vos enfants. Alors, vous ne saurez peut-être pas que non, voilà, ici, telle maladie est arrivée dans ma famille, à cause d'un environnement très malsain dans lequel je vis, pour n'avoir pas consulté l'architecte qui vous donne les normes, qui vous donne des principes pour bien vivre, non seulement dans la maison, mais dans la parcelle. C'est ça la grande conséquence. Donc, un jour, il y a des choses qui vont vous retourner contre vous, ou tout simplement, sur le plan physique, la maison ne respectera pas les structures. Il y a l'intervenant qui a dit tout à l'heure que, bien sûr, on voit ces maisons qui tiennent, d'accord, mais qui tiennent à quel prix? Peut-être on a surdosé la construction, on a surdimensionné les constructions. Au lieu de dépenser 5 000 $, vous vous retrouvez en train de dépenser 150 000. Tout voilà. Simplement parce que le contremaître que vous avez utilisé surdimensionne des choses. Lorsqu'on a surdimensionné, ça tient. Voilà, mais n'oubliez pas qu'on construit non seulement pour que ça tienne, mais il faut que ça soit beau et que ça soit aussi une référence.
Tout à fait. On a compris les grands dangers des Chongandou. Il y a beaucoup de réactions qui nous sont parvenues par SMS. Le temps pour nous d'accorder d'abord la parole à Mike Mbimba, qui nous appelle de Kolwezi dans le Katanga. Mike Mbimba, bonjour.
Bonjour, jeudi.
Moi, c'est Marcel. Allez-y rapidement. C'est quoi votre question?
Ah, bonjour Marcel. En fait, je voulais poser une question, c'est sûr, d'un exemple. Ici, à Kolwezi, il y a un lotissement qui venait de naître, qu'on appelle Joli Site. ce lotissement-là est entre l'aéroport et le chemin de fer SNCC. Je ne sais pas si vous me saisissez.
Oui, on vous suit, oui.
Oui, d'accord. Ce lotissement-là, en plus, c'est un lotissement qui est très, très sablonneux. Alors, je pose la question de savoir, l'aéroport et ce lotissement, il est à distance, si je ne m'abuse pas, de 300 mètres. Les rails et ce lotissement, il est à distance de 100 ou 150 mètres. Est-ce que à de tels endroits, on peut construire des maisons à hauteur? Si oui, que faudra-t-il faire? Ça, c'est ma première question.
La deuxième?
Ma deuxième question est celle de savoir, la facture, est-ce qu'on peut passer outre que les architectes? C'est tout.
Merci Mike Mbimb depuis Kolwezi dans le Katanga. Mavé Kisambika, vous êtes à Kananga dans le Kassai occidental. Bonjour Mavé. Mavé, bonjour. Bonjour Mavé. Bon, Mavé, en tout cas, il semble pas nous suivre. Alors, on va accorder directement la parole à Dishongando pour répondre à ses préoccupations de Mike Mbimb qui nous a appelé de Kolwezi. Il parle d'un site qu'on appelle joli site du côté de Kolwezi qui est constitué entre l'aéroport et les chemins de fer et le sol est sablonné. Il demande si c'est bon de construire, c'est bon de lotir dans un pareil site. Et puis, s'il faut que les gens puissent construire, est-ce qu'on peut construire des maisons en hauteur?
Ok, si Mike m'a suivi au début de l'émission, je parlais des documents importants que l'urbanisme, c'est-à-dire la construction, l'architecture à grande échelle élabore. Je parlais du plan d'occupation des sols et je parlais du schéma directeur. Kolwezi étant une vieille ville, elle a sûrement un schéma directeur, c'est-à-dire un plan bien établi pour son expansion. Et à cet endroit-là, évidemment, on doit avoir prévu quelque chose, donc un lotissement, un quartier à aménager. Et ce quartier-là doit sûrement avoir un plan d'occupation des sols. Alors, si le plan d'occupation des sols prévoit qu'à cet endroit, on doit construire des maisons à hauteur, bien sûr, on doit respecter. Mais il ne faut pas oublier un principe très fondamental de la construction. On peut construire partout, même dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'il faudra construire? Et pourquoi construire? Le terrain étant sablonné, bien sûr. Il y a des techniques, il y a des méthodologies, il y a des moyens pour pouvoir construire sur un terrain sablonné. Mais qu'est-ce qu'il faut construire? Est-ce des habitations? Est-ce une usine de peinture? Est-ce un montage de machines? Tout ça, c'est les plans d'occupation des sols qui, sûrement à cet endroit-là, doivent avoir déterminé ce qu'il faudra faire. Si on va outre les plans d'occupation des sols, c'est-à-dire qu'on va à volo et les conséquences ne vont pas tarder à se manifester. Je crois qu'en grande ligne, c'est ça ce que je peux dire. La deuxième partie de son intervention, je ne l'ai pas très bien saisie. Il a parlé de l'architecte. Je ne sais pas s'il voulait dire qu'il faut toujours consulter un architecte ou pas. Je n'ai pas bien saisi la question, si on peut la répéter pour moi.
En fait, il a demandé sur un tel site on peut construire en hauteur et puis est-ce qu'il est également toujours important de consulter un architecte avant de se lancer dans de travaux de construction?
Oui, je vais sans hésitation lui dire qu'il est toujours également, il est important de consulter un architecte. Que ce soit la construction d'une cathédrale ou d'un studio, c'est-à-dire qu'il faut toujours recourir à un architecte. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour vous gêner ou pour vous embêter l'existence, mais c'est quelqu'un qui vient vous permettre de vivre dans un environnement décent. Vous savez, sur 24 heures de la journée, nous passons la plupart du temps, en moyenne 8 heures du temps, donc un tiers de 24 heures de la journée, nous le passons en chambre en dormant. Donc, c'est-à-dire que la vie, notre vie est affectée par l'environnement dans lequel nous vivons, dans lequel nous dormons. Donc, il faut donner de l'importance à cette personne-là que le Seigneur a établi de par les capacités, soit innées ou apprises à l'école, de pouvoir vous orienter. Il faut lui donner l'occasion de faire son travail. Et c'est de cette manière-là que nous vivons, nous arriverons à mener une existence décente sur cette terre.
Voilà, déjà, on va prendre rapidement deux auditeurs en ligne avant de découvrir aussi rapidement les réactions qui nous sont parvenues par SMS. Prosper Abili nous appelle de Kindu dans l'Humaniema. Prosper, bonjour.
Bonjour, monsieur Marcel.
Allez-y rapidement. C'est quoi votre question, Prosper?
J'aimerais un peu poser la question à l'invité, monsieur Duchour.
Oui.
Est-ce que dans les services des cadastres et d'urbanisme, il y a des architectes et des topographes? Si oui, dans une ville comme la nôtre, je suppose, je le sais bien, qu'il n'y a pas de plan d'urbanisation de la ville. il n'y a pas de plan cadastral. Et les services de cadastre et d'urbanisme sont en train d'octroyer les terrains aux paisibles citoyens pour construire. Après avoir construit, on passe avec les services d'État pour la démolition de ces maisons-là. Maintenant, à ce moment-là, à qui incombe la faute? Les architectes et les topographes, s'il y en a dans ces services-là, quel est leur rôle dans ces services?
Merci.
C'est la question que j'aimerais.
Merci, Prosper Abeli, depuis Kindu, dans le Maniema. Cédric Kiboué, vous êtes à Kolwezi, dans le Katanga. Bonjour, Cédric.
Cédric Kiboué, à partir de Kalemi, pas à Kolwezi, monsieur Marcel.
Voilà, merci. Vous êtes à Kolwezi, dans le Katanga. Allez-y, Cédric, rapidement, c'est quoi votre question?
Merci beaucoup. Avant de poser la question, je voulais un peu brosser quelques réalités qui se passent ici à Kalemi.
Cédric, on a plus... Cédric, s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup assez de temps. Hein. Vraiment, soyez gentil à poser directement votre question. Allez-y. Alors, Cédric.
Habilité à pouvoir faire les constats avant que quelqu'un construise ou bien avant que quelqu'un occupe une parcelle. Des deux, je voulais passer en revue avec... nous avons notre quartier ici à Kalemi, les quartiers d'Ave. Les maisons sont construites en pêle-mêle. Donc, les gens ne respectent même pas la route. C'est à 1 mètre, à 2 mètres de la route que quelqu'un se tape le luxe de se faire une maison. Par le fait que peut-être il a un peu de connaissance avec un agent, soit un conservateur des titres immobiliers, le fait de lui octroyer une parcelle, il se tape une maison sans qu'il ne respecte les normes. Et je voulais seulement faire une question à l'invité.
Oui.
Ceux qui construisent, par exemple, il y a les 10 000 volts de la SNEL qui passent au-dessus de la maison. Ceux qui construisent, au lieu de démolir d'eux-mêmes, maintenant, qu'est-ce que la loi a prévu par rapport à ceux qui construisent sans respecter les normes? Merci beaucoup.
Merci Cédric Kiboué. Depuis Kalemi dans le Katanga, Dicho, voilà, il y a deux réactions de nos auditeurs. Si vous pouvez également répondre rapidement, d'abord à Prosper Abeli, qui a demandé si au niveau des services de cadastre, la topographe et des architectes, quel est leur rôle. Et également à Cédric qui vous venez de suivre, qui dit il y a des gens qui construisent par exemple dans un endroit où passe même du câble de 10 000 volts de la SNEL. Quels sont les dangers par rapport à ça?
Bon, merci. D'une façon générale, je comprends que cette question s'entrecoupe. Ce que je peux donner comme aperçu des réponses, c'est dire que il y a un principe dans chaque ville qui existe, il y a un schéma directeur qui est établi, et dans ce schéma directeur, il y a les plans d'occupation des sols. Si ce n'est pas respecté, comprenez que nous sommes en train, bien sûr, d'aller de déviation en déviation. Mais n'oubliez pas aussi, ça c'est des situations de principe. Mais ce que nous sommes en train de vivre, pour le moment, c'est une explosion urbaine.
Oui.
Vous savez, l'ONU, dans ses statistiques, a prévu, il est bien démontré qu'en 2025, 60% de la population mondiale va vivre au centre-ville. C'est ce que nous sommes en train de... Nous tendons vers ça. Au début du XXe siècle, c'était 10% de la population mondiale qui vivait au centre-ville. En 2005, nous avions avoisiné 50% de la population. Mais 20 ans plus tard, nous allons atteindre 60% de la population qui sera une population vivant en ville, donc des citadins. Alors, c'est que nous sommes en train de vivre une perspective parfois vertigineuse, d'où c'est tous ces problèmes-là. Alors, il faudra que l'État, qui est une grande société, devant prendre en charge les autres petites sociétés, je ne cesserai jamais de le dire, puisse vite rattraper cette situation. Sinon, c'est que nous sommes en train de vivre, nous tendons vers cela. Vous les comprenez. Et cette situation, elle est à 80% vécue dans des pays du tiers-monde. Sur les 33 mégapoles du monde, 27 font partie des pays du tiers-monde. Donc vous comprenez que c'est nous, les habitants, c'est nous, le pays du tiers-monde, qui sommes beaucoup plus affectés par cette explosion urbaine.
Si on comprend bien, il revient à l'État de bien organiser en tout cas ces secteurs pour éviter qu'il y ait cette espèce de désordre. C'est d'ailleurs ce que nous écrit certains auditeurs qui nous suivent. On va découvrir rapidement, par exemple, les deux données. Ali Foué qui nous écrit ceci, il est à Bukavu. Le problème de construction anarchique revient toujours au gouvernement qui a déjà connu notre pays. Il y a des maires, des gouverneurs qui distribuent des parcelles sans tenir compte de tout ce qui est lié à l'urbanisation. questions, il pense plus à se remplir les poches. Il est Emmanuel Chissakwa qui est depuis l'Angola, qui nous dit, selon moi, dans un pays bien organisé, avant de distribuer aux gens des lieux, il faut que le service de CADAS puisse tenir compte de toutes les normes qui s'y refèrent. Et puis il y a également Claude qui écrit ceci, avant de construire une maison, on doit connaître l'étendue de la parcelle appropriée pour la construction et ensuite l'étendue du terrain. Alors s'il faut conclure des Chengandou par rapport à ce sujet, il est important qu'il y ait, par exemple, le bureau d'études et d'aménagement urbain puisse jouer pleinement son rôle.
Oui, je crois que nous nous accordons à une conclusion convergente tout au long de l'émission. Tous et les intervenants et moi-même,
oui.
Nous avons jeté en quelque sorte des tomates pourries à la direction de l'État. C'est-à-dire que l'État doit renforcer ses services, l'État doit vraiment jouer pleinement son rôle, ça c'est en amont, c'est ça la grande responsabilité. Mais n'oublions pas que nous, en tant que citoyens aussi du monde, nous devons vivre en l'ignorance totale, nous devons vivre comme si c'était à l'époque au Moyen-Âge où on fait semblant de tout. On attend que l'État vienne tout faire pour nous. Non, nous ne sommes plus à cette période de l'État vacholé, qui est en train de distribuer tout, qui est en train de tout faire. Nous devons nous prendre aussi en charge à notre niveau. C'est prendre en charge, c'est chercher aussi l'information là où elle se trouve, même si la vulgarisation n'est pas faite à 100%. Donc c'est ça que je peux dire. Donc nous devons rester éveillés. Nous devons aussi comprendre que non, quels sont les renseignements qu'il faudra obtenir, vers qui il faut aller pour pouvoir se construire une maison. Vous savez, construire une maison, on peut avoir une maison pour tout le reste de la vie et faire passer des générations et des générations là-dedans. Si aussi on n'a pas bien construit, si on n'a pas respecté les normes, donc vous allez faire passer des générations et des générations vers un mouroir perpétuel sans le savoir.
Voilà, merci. Ouais, merci Dishongandou. Nous rappelons que vous êtes architecte, vous étiez notre invité pour parler de ce sujet. Quelles sont les normes à respecter avant de construire une maison? Merci, à la prochaine.
Merci beaucoup, Marcel.